France Culture.
Aux proclamations solennelles d'un grand principe, l'égalité, à son inscription de plus en plus forte dans le droit positif, s'oppose encore et toujours une réalité massive, plutôt stable, si ce n'est en progression, le fait discriminatoire. En France, particulièrement, où la République aime à se penser universelle et colorblind, ce fait apparaît souvent minimisé et même dénié, au point qu'on en interdise ou rend difficile la mesure même de certaines discriminations. C'est souvent ce brouillage entre l'approche normative et l'approche descriptive qui autorise les attaques de plus en plus vives à l'endroit des sciences sociales taxées de wokisme, qui légitime aussi la remise en question dans les États-Unis de Trump des politiques contre les discriminations et en faveur de la diversité. Et face à de tels assauts, il est plus que jamais nécessaire de prendre la mesure, toutes les mesures, de ce fait social total, le fait discriminatoire. C'est ce que permet la lecture du passionnant ouvrage de synthèse que Myrna Safi publie au PUF, Discrimination, elle est cette semaine l'invitée de La Suite dans les idées.
France Culture, La Suite dans les idées, Sylvain Bourmont.
Et c'est pour évoquer des situations limites de discrimination, des situations dans lesquelles les individus, les personnes ne sont pas ou sont moins protégées par le droit que les autres, dont on parlera dans la deuxième partie de l'émission avec un écrivain, Amadou Barry, qui nous rejoindra. Il a publié au mois de janvier dernier aux éditions Julliard, Journal d'un exilé. Et puis, dans la rubrique Actualité, il sera question du traité constitutionnel européen. Vous vous rappelez, c'était il y a 20 ans et la revue Mouvement a décidé de consacrer son nouveau numéro à ce qui s'est passé en Europe 20 ans après, l'analyse de ce moment politique effervescent que cela fut, cette campagne, et puis à la situation contemporaine de l'Europe. On en parlera avec Clément Petitjean. Bonjour Myrna Safi.
Bonjour.
Vous êtes sociologue, vous êtes professeur de sociologie à Sciences Po au sein du Centre de recherche sur les inégalités sociales et au sein aussi du laboratoire interdisciplinaire d'évaluation des politiques publiques. Vous menez depuis longtemps des recherches sur ces questions de discrimination. Vous avez publié de très nombreux articles en français, en anglais, dans beaucoup de revues. Mais là, pour une fois, vous faites un livre qui est un livre de synthèse extraordinairement précieux parce que il permet de s'appuyer sur toute la cumulativité aussi qu'offrent les sciences sociales. Et c'est pas rien, parce que on peut discuter ça et là de telle étude, mais quand on dispose de 150 articles différents qui eux-mêmes sont le produit de recherches inédites, on a une certaine solidité, on va dire, du savoir scientifique. Et ce qui frappe dans la situation, peut-être particulièrement en France, mais on y reviendra, c'est le déni que parfois on oppose à cette réalité scientifique très bien documentée, de mieux en mieux documentée, même si c'est parfois difficile de le faire, à cette situation, cette réalité des discriminations. Tout simplement peut-être, et vous vous posez la question, tout simplement peut-être parce que, après tout, c'est en large partie illégal de discriminer. Ça n'en est pas moins le cas, souvent, tous les jours, pour certaines personnes, en fait.
Oui, alors, effectivement, le livre a comme objectif, en fait, de rassembler les connaissances qui ont été accumulées par les sciences sociales sur ce sujet. Il se trouve que moi-même, j'ai contribué, mais ces dernières années, j'ai beaucoup travaillé sur ces questions. Et là, j'avais vraiment envie de montrer que sur ce sujet-là, il ne s'agit pas seulement de donner des opinions ou d'avoir des débats d'idées, mais à un moment, c'est bien juste de mettre les faits sur la table. Et aussi, en fait, il y a quand même une approche aussi qui consiste à dire voilà comment les sciences sociales traitent cette question-là. Et l'ouvrage, c'est vrai, essaie d'éviter de rentrer dans les questions de moralisantes sur ce sujet le plus possible, même si parfois c'est difficile de l'être. Mais effectivement, le premier point, c'est quand même l'illégalité du phénomène. D'ailleurs, c'est un peu la motivation aussi de l'ouvrage, c'est de dire voilà, enfin, on est tous d'accord sur le fait que c'est illégal. On peut aussi être d'accord sur le fait que Les traitements discriminatoires sont aussi des traitements moralement, comment dire, injustifiables, qui sont. Donc, on peut aussi, en fait, les recherches en sciences sociales montrent aussi qui portent préjudice aux individus, bien sûr, mais aussi qui sont des dégâts qui produisent des effets négatifs sur notamment. Les sociétés. Donc, il y a plein de raisons pour justifier l'intérêt, et je les expose un peu dans l'ouvrage. Mais la première chose que j'avais envie de faire, c'est d'expliquer un peu comment les sciences sociales traitent le sujet et de donner un peu les mesures. Et sur ce point, d'abord, le point de départ, c'est de définir de manière très précise. Alors, peut-être j'ai été très précise, un peu trop précise, mais c'était important pour moi de dire on délimite quelque chose de très tangible dans ces études-là sur les discriminations qui consiste en le traitement inégal et non pas des écarts qui peuvent être mesurés de manière systématique dans nos bases de données, mais qui n'apportent pas la preuve d'un traitement inégal. Ce n'est pas non plus des attitudes ou des opinions qui peuvent être bien sûr corrélées et qui peuvent être des sources en fait de traitement, mais là il s'agit de décisions, d'actions d'individus qui sont prises dans des circonstances qu'on peut observer, parfois qu'on peut nous chercheurs provoquer, et en fait ces actions sont défavorables à des individus en raison de leur appartenance à des groupes, en raison des catégories sociales qui, en fait, font qu'on croit qu'ils appartiennent à ce groupe. Et ces catégories ne sont pas pertinentes pour l'interaction en question. Donc, pour être très concrète, l'exemple le plus fréquent, c'est le marché du travail et le recrutement. Et il s'avère que c'est une interaction sociale qui se prête bien à nos études, parce que c'est une interaction sociale où on peut facilement provoquer ces situations. On a en fait des caractéristiques égales construites comme telles par les chercheurs. On envoie ses CV et tout le monde connaît ses recherches maintenant parce qu'elles se sont beaucoup propagées dans les médias, etc. Et on attend les réponses des employeurs et on systématiquement recense le degré auquel un prénom différent, qu'il signale le genre d'ailleurs ou l'origine, mais aussi des caractéristiques autres comme par exemple le signal d'un handicap ou l'orientation sexuelle suggérée, etc. Beaucoup de critères ont été analysés dans ces études et on collecte, nous, chercheurs, les réponses des employeurs, ce qui nous permet de calculer des taux de discrimination sur une action qui est certes une micro-action dans la société, mais qui est très révélatrice de ce concept qui est en fait l'inégalité de traitement.
Alors en fait, dans le livre, il est très synthétique, il est très dense, il y a beaucoup de résultats de recherche que vous essayez de partager avec les lectrices et les lecteurs, d'autant que vous essayez de tenir tous les bouts, c'est-à-dire qu'il s'agit de voir quelles sont les personnes discriminées, à quel titre elles sont discriminées, dans quel contexte social elles sont discriminées, voir éventuellement si des formes différentes de discrimination peuvent interagir, et ça se complexifie et c'est passionnant. Donc ça vous conduit d'abord à définir ce que une sociologue entend par discrimination, qui est peut-être pas tout à fait la même chose que la définition juridique des discriminations, même si c'est assez proche. Et aussi, évidemment, et vous prenez le temps de le faire, d'expliquer comment les sciences sociales ont inventé, imaginé des méthodes, des moyens très différents de tenter de s'approcher au plus près de la mesure de ces discriminations. Alors il y a des, c'est intéressant de rentrer dans le détail parce que au fond, vous avez évoqué le marché du travail. On entend souvent dans les médias parler du testing. C'est peut-être la méthode la plus connue, mais en fait, c'est loin d'être la seule. Il y a des méthodes qui ne sont pas expérimentales comme ça, mais qui sont simplement des méthodes classiques observationnelles et qui n'en produisent pas moins des résultats très très intéressants également, Myrna Safi.
Oui, alors il y a en gros quatre manières d'investiguer ces questions. D'abord, on peut demander aux gens s'ils ont vécu des discriminations. On le fait dans des grandes enquêtes comparatives, on le fait dans des enquêtes nationales. On appelle ça la discrimination reportée ou déclarée ou perçue. Et le problème, vous voyez bien, c'est en termes d'administration de la preuve, sur le traitement inégal, ces données sont limitées, mais elles nous apportent beaucoup de choses, parce que c'est très important de comprendre le vécu des personnes.
C'est limité tout simplement déjà par le fait que les gens n'ont pas forcément la même définition les uns les autres de ce qu'on entend par discrimination, en fait.
Oui, exactement. D'ailleurs, on pourrait imaginer qu'ils vont avoir tendance à surestimer, mais en vrai, ce qu'on voit, c'est pas vraiment ça.
C'est l'inverse.
C'est en fait le mot est chargé, comme vous avez dit, le mot est chargé par une définition juridique qui le rend assez, assez solennel. Mais en tout cas, on a ces données-là, on travaille sur ces données-là, elles sont utiles, mais elles ne sont pas suffisantes. On peut aussi demander à des personnes potentiellement discriminantes si elles le font. Donc, par exemple, on demande à des employeurs, on a des enquêtes qui demandent à des employeurs ou à des agences immobilières. Alors là aussi, vous voyez, on le fait, il faut continuer à le faire, mais il y a aussi des limites, parce que dans la plupart des cas, pour l'anecdote, les gens nous disent, moi non, mais tout le reste dans ma profession le fait. Donc, on a aussi ces enquêtes-là. On peut aussi, pendant longtemps, ça a été un peu l'approche classique, c'est de travailler sur des données observationnelles sur des écarts socio-économiques. Par exemple, l'exemple le plus classique, c'est la différence de salaire, c'est les écarts de salaire. On le sait, pour les femmes et les hommes, par exemple, c'est des statistiques qu'on connaît, qui reviennent dans les médias. Et on essaye de nettoyer ces écarts de tout ce qu'on observe qui pourrait jouer dans, en fait, la fixation des salaires. Et en fait, ce qui reste dans les caractéristiques liées aux caractéristiques potentiellement discriminatoires, telles que le genre ou l'origine, ben, on l'interprète comme discrimination. Il y a beaucoup de débats méthodologiques dans la littérature pour dire c'est bien, c'est important, mais ce n'est pas une preuve du traitement inégal. Et en vrai, ce qu'on veut prouver, nous, c'est vraiment le fait que des individus n'ont pas accès à des ressources économiques de la même manière que les autres, dans des interactions qui sont en fait importantes pour y avoir accès et de manière vraiment systématique.
Une autre manière de travailler de façon observationnelle, c'est le faire dans des ethnographies. Vous citez le travail sur les contrôles au faciès, l'enquête menée par Fabien Jobard et ses collègues à la sortie du RER des Halles à Paris, qui a été marquante. Il s'agissait d'observer, regarder la façon dont la police fait des contrôles d'identité, en fait.
Oui, tout à fait. Toutes ces enquêtes sont très précieuses pour nous expliquer, pour décrire le phénomène, pour expliquer les mécanismes. Mais c'est vrai que dans l'ouvrage, je me suis beaucoup concentrée sur les enquêtes expérimentales. Alors parfois, on appelle ça les testings, les audits, les enquêtes par correspondance. Moi, j'aime bien appeler ça les enquêtes expérimentales sur le terrain, parce que c'est vraiment un domaine d'étude qui a connu une forte effervescence ces dernières années, où pas seulement les sociologues, hein, les sciences sociales, parce que c'est un sujet où il y a des économistes, des politistes, des psychologues qui jouent un rôle important. Et en fait, c'est vraiment l'inventivité, la créativité de ces scientifiques qui ont essayé de repérer des interactions sociales qui se prêtent bien à ce type d'expérimentation sur le terrain et de multiplier les enquêtes qui permettent de mesurer le phénomène de manière indiscutable, méthodologiquement. Et ensuite, une fois qu'on a bien, on a un petit peu dépassé le débat sur est-ce que ça existe ou ça n'existe pas, on peut essayer de comprendre pourquoi et quels sont les mécanismes qui font. Et donc, vous avez dit le marché du travail, le recrutement, il faut savoir qu'il y a aujourd'hui plus de 350 études dans le monde qui sont standardisées, qui utilisent les mêmes protocoles.
Donc on peut les comparer les unes les autres, on peut les additionner.
On peut travailler là-dessus comme on fait dans les sciences médicales, c'est-à-dire on fait des méta-analyses, on rassemble toutes ces données et on les traite à nouveau, d'accord, statistiquement, pour sortir des résultats généraux. Mais il y a aussi ces enquêtes-là, aujourd'hui, sont répétées dans le logement, donc par exemple dans l'accès à la location, notamment, mais aussi dans toutes les interactions où il y a une forme minimale d'interaction où on peut bien contrôler. Par exemple, typiquement, tout ce qui est dans l'administration, envoyer des mails, demander des informations. Dans l'éducation également, on a fait des choses qui, en fait, consistent à essayer de contacter les écoles pour l'inscription scolaire. Donc, des mails qu'on peut très bien contrôler et on recense à chaque fois les retours. C'est plus difficile de faire ça dans le domaine...
Des démarches un peu standardisées.
Voilà, des démarches standardisées, des interactions qui ont un sens, en fait, dans notre société, qui donnent accès à des ressources et qui sont souvent la porte d'entrée, en fait. Mais on a fait ça également, j'avais dit, le logement, l'éducation, dans les interactions quotidiennes. Aujourd'hui, il y a beaucoup de travaux très intéressants. On fait ça dans ce qu'on appelle la discrimination dans la vie quotidienne. Je ne sais pas, souvent, par exemple, dans des scènes qu'on provoque pour voir si les gens aident.
Pour trouver son chemin dans la rue.
Voilà, exactement. Et ça, c'est aussi des expériences contrôlées par les chercheurs. Toutes ces expérimentations, aujourd'hui, donnent des résultats assez convergents. Donc, par exemple, on trouve dans ces expérimentations, dans les sociétés démocratiques occidentales, souvent, l'origine apparaît comme un facteur discriminant fort, systématique. C'est ce que je dis. Alors, dans le livre, je parle beaucoup du recrutement parce que là, vraiment, on a des méta-analyses très fortes. Et ce qui est intéressant, c'est que ça ne varie pas beaucoup. C'est-à-dire qu'on trouve, grosso modo, en France, la dernière étude qu'on a menée donne un taux de rappel de 1,5, ça veut dire qu'en fait, une personne signalée comme majoritaire a 1,5 fois plus de chances de recevoir un taux de rappel d'un employeur.
Alors, pour être bien clair, ce que vous entendez par une personne majoritaire, c'est moi, par exemple. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui est blanc, qui est un homme, voilà, enfin, un certain nombre
de... Bon, là, c'est vraiment le prénom qui signale souvent, en fait, dans ces études, c'est vraiment, dans les CV, c'est souvent le prénom.
C'est le prénom qui permet de coder, au fond.
De coder. Après, c'est
un codage approximatif.
Exactement. Alors, on sait qu'il y a plein de choses dans le prénom et on travaille sur ça. Donc, on travaille vraiment sur qu'est-ce qu'il y a derrière un prénom? Mais effectivement, on sélectionne les prénoms de manière à être sûr que c'est des prénoms qui, en fait, véhiculent beaucoup l'idée, effectivement, de l'origine étrangère. Et la plupart des études ont été faites, en fait, sur l'origine, d'ailleurs, dans le monde. Hein,
mais c'est très compliqué parce qu'en fait, en fonction de l'origine, les stratégies, d'ailleurs, des personnes qui arrivent en France à l'égard du prénom sont pas les mêmes. Par exemple, on a noté que les personnes venues d'Asie souvent donnent des prénoms français à leurs enfants pour l'usage à l'école, qui correspond pas au prénom utilisé dans la famille, souvent d'ailleurs, alors que c'est pas le cas pour les gens qui viennent d'Afrique, qui ont un seul prénom et qui utilisent toujours le même. Donc ça rend les choses compliquées quand même.
Oui, tout à fait. Alors là, ce que vous dites, c'est la vie réelle. Et nous, en fait, ce qu'on fait, c'est des situations fictives. Donc c'est juste...
Oui, ça permet...
Encore une fois, nous, les situations... Enfin, les recherches là-dessus utilisent vraiment des situations fictives pour apporter cette preuve par, en fait, le traitement randomisé. Il faut bien dire, c'est un peu ça l'idée aussi, c'est qu'on envoie ces CV avec des prénoms qui signalent l'origine de manière aléatoire. Donc on sait qu'il n'y a rien qui prédétermine en fait la manière dont un employeur va répondre à ces CV. Et en fait, il n'y a rien dans le CV aussi qui est corrélé avec ce signal-là. Donc on est capable d'isoler de manière un peu à l'image du scientifique en sciences physiques ou en sciences naturelles, on est capable d'isoler l'effet de ce signal. Et on sait que ce signal, quand on fait des analyses, des études par exemple sur ce que les gens voient dans ce prénom, on voit que ce signal, en fait, véhicule beaucoup une origine étrangère, souvent en France, nord-africaine ou subsaharienne.
Je vous arrête parce que ça, c'est très important pour comprendre un aspect plus théorique aussi que vous développez dans votre livre, qui permet de comprendre comment ça fonctionne, les discriminations. C'est-à-dire par la propension qu'ont les gens à assigner des gens, qu'ils soient réels ou pas, en l'occurrence des gens fictifs qui sont inventés sur ces CV, de les assigner à des groupes. C'est-à-dire qu'en voyant un prénom, ils vont se dire, alors qu'ils ne connaissent pas la personne, qu'ils ne l'ont jamais rencontrée, cette personne n'est pour eux qu'un prénom, un nom et quelques lignes sur un CV, ils vont automatiquement, du fait du prénom, se dire cette personne appartient à tel groupe, ce qui est pas forcément vrai d'ailleurs, mais en tous les cas, c'est ce mécanisme-là qui est au cœur de ce que vous observez, et vous avez des développements sur la manière dont ça fonctionne dans la société, cette façon qu'on a tous au fond de renvoyer les gens face auxquels nous nous trouvons, que ce soit en face à face ou via des CV, à des groupes supposés d'appartenance.
Oui, tout à fait. Alors, l'idée, c'est, en fait, on pourrait rattacher cette littérature à des thématiques plus larges qui sont comment les humains agissent en société, c'est quoi les, enfin, tous les travaux sur le traitement de l'information, hein. Donc, effectivement, on vit dans un monde où le cerveau, en fait, associe à chaque caractéristique une signification. C'est comme ça, en fait. Les catégories sociales ont des significations. Et donc, en fait, l'objectif du livre, c'est aussi un petit peu dépasser, parce que vous avez commencé dans l'introduction par évoquer, effectivement, la crispation politique autour de ces sujets, les débats un peu véhéments houleux. En fait, l'idée, c'est pas de stigmatiser ni les discriminants, ni les discriminés. L'idée, c'est de dire, quelque sorte, l'égalité d'opportunité, qui est quand même un fondement de notre démocratie, c'est un objectif très exigeant. C'est un idéal. Et il s'avère que...
Un idéal qui est remis en cause par ailleurs dans cette actualité politique dont je parlais.
Oui, mais en vrai, je sais pas, c'est comme vous dire, ok, même là, on parle des politiques de Trump. Bien sûr, il y a un démantèlement des politiques anti-discrimination, mais pour l'instant, la discrimination reste illégale. Et dans nos sociétés, la discrimination illégale et par ailleurs, l'égalité d'opportunité est toujours un fondement de notre démocratie. Je ne dis pas qu'il n'est pas tous les jours bafoué, etc. Mais en tout cas, c'est un fondement de notre démocratie. C'est un petit peu quand même le point de départ du livre. C'est de dire, pour atteindre cet objectif, il faut prendre acte du fait que nos interactions sociales quotidiennes, dans des sphères qui sont en fait des sphères qui donnent des accès à des ressources et d'autres qui sont même des sphères du quotidien, ces interactions en fait sont polluées, si vous voulez, par la signification de ce qu'on porte sur nous comme catégories qui ont le poids de l'histoire, mais aussi qui ont des significations diverses et variées liées à la manière dont on observe la société. Par exemple, on voit que les femmes sont majoritaires dans certains domaines et en fait, on reproduit ça grâce aux stéréotypes. Donc, il y a un petit peu une sorte d'inertie, en fait.
Mais les stéréotypes jouent un rôle très important.
Oui, donc bien sûr. Donc en fait, c'est nos croyances sur ce qui marche bien avec une catégorie sociale. Et ces croyances vont affecter sans cesse nos décisions dans les organisations, dans la société, dans les interactions quotidiennes, etc. Et donc ces mécanismes, tous les jours, nous éloignent de notre idéal d'égalité d'opportunité. C'est un petit peu le défi du livre, c'est de montrer vraiment que c'est le cas. Et sans être dans un débat, encore une fois, de provocation ou de pointer du doigt des responsables, montrer que tout le monde est perdant dans cette affaire. Parce qu'en fait, les organisations le voient très bien, notamment les entreprises, en fait. Là où quand il y a des discriminations, en fait, il y a un climat social qui est délétère pour tout le monde. Il y a un climat social qui n'est pas non plus aussi propice à la productivité, à la créativité, etc. Donc, tout le monde y est perdant. Et en fait, il faut s'atteler à combattre ces mécanismes, leurs sources profondes, et essayer de les corriger.
Mais pour combattre, il faut d'abord connaître, c'est-à-dire connaître l'ampleur, connaître la forme des discriminations, connaître ces mécanismes, et c'est tout cela que visent ces études. En fait, cette connaissance, elle est assez peu partagé d'une certaine façon, c'est peut-être ça qui rend possible d'ailleurs ce hiatus, cet écart entre le droit d'un côté et le fait qu'il ne soit pas véritablement très bien appliqué. Enfin, il y a peu de domaines dans lesquels le droit est aussi peu appliqué, en fait, probablement que le droit des discriminations. Et ça rend la situation socialement tendue, socialement compliquée. Donc ce travail, il y a forcément une demande à l'égard des sciences sociales. Quant à la production de cette information, qu'en est-il des discriminations? À quel point notre société leur organise, leur laisse la place? Et surtout, comment ça évolue dans le temps? Or, ce que vous notez, l'un des résultats de toutes ces études que vous citez, c'est au fond une certaine forme de stabilité. Et ça, en dépit même d'un certain nombre de politiques anti-discrimination. Alors, pas dans tous les domaines. S'agissant du genre, on voit des progrès notables.
Oui,
mais dans les autres domaines, on peut pas dire que les choses évoluent très vite.
Oui, alors, vous avez très bien résumé. Donc, oui, effectivement, il y a un lien très fort avec la sphère juridique, parce qu'encore une fois, le mot a ses racines juridiques. En vrai, historiquement, les premières études expérimentales cherchaient, en fait, à détecter les discriminations pour poursuivre les agences immobilières à l'époque. Mais très vite, en fait, les sciences sociales ont changé d'objectif. L'idée, ce n'est pas de poursuivre. L'idée, c'est juste de documenter le phénomène. Étant donné qu'en fait, on sait la difficulté, on connaît la difficulté, en fait, de prouver légalement une situation discriminatoire. Donc en fait, ce que les sciences sociales font, c'est documenter ça de manière descriptive dans la société.
Le régime de la preuve des sciences sociales n'est pas le même que le régime de la preuve juridique.
Exactement. Et c'est pas les mêmes objectifs non plus. C'est d'abord donner un cadrage, informer sur l'ampleur du phénomène, et ensuite essayer de comprendre, hein, parce que c'est un petit peu quand même notre objectif, c'est de comprendre qu'est-ce qui fait que les individus se comportent comme ça, en dépit, par exemple, des progrès à la fois en termes de l'arsenal juridique pour lutter contre les discriminations, qui vraiment c'est formidable en fait quand on regarde depuis les années 60 les évolutions, mais aussi les progrès culturels, c'est-à-dire effectivement les gens aussi ont des attitudes plus positives. Hein. Donc malgré cela, on effectivement, comme vous l'avez dit, dans les méta-analyses, on a une dizaine de pays aujourd'hui dans lesquels on a suffisamment d'enquêtes qu'on peut en fait suivre dans le temps les résultats, et on trouve en fait qu'il y a une stabilité. D'ailleurs, un point qui est important à souligner, c'est que les enquêtes comparatives montrent un taux très élevé pour la France, hein, de discrimination à raison de l'origine, plus élevé dans le recrutement. Je tiens à le dire parce qu'on ne sait pas pour les autres dimensions. Enfin, en tout cas, il y a des études, mais c'est pas forcément si on trouve une forte discrimination dans le recrutement, ça ne veut pas dire forcément qu'elle est partout aussi très forte. Ça dépend vraiment des mécanismes organisationnels. Mais dans le recrutement, la France est en tête de peloton en termes de discrimination. Effectivement, les méta-analyses qui comparent dans le temps trouvent une stabilité. Il y a quelques exceptions selon l'origine. Il y a une stabilité, mais pour le genre, il y a une amélioration. Il y a une amélioration parce qu'aussi, il y a eu des politiques beaucoup plus contraignantes pour les entreprises. Et ce qu'on voit aujourd'hui, les derniers chiffres en France donnent une discrimination nulle en France en raison de l'origine. C'est quelque chose qu'on voit dans d'autres pays. C'est un fait stylisé aujourd'hui dans les enquêtes expérimentales qui mesurent la discrimination dans le recrutement selon le genre. Et on sait qu'en fait, ce qu'il y a eu, c'est un effet de rattrapage. Donc en fait, dans les métiers qui sont très masculinisés, en fait, on a eu un rattrapage. Donc aujourd'hui, en vrai, les enquêtes montrent que les femmes sont discriminées positivement dans ces métiers. Et dans les métiers féminisés, à l'inverse, il y a encore toujours une discrimination envers les hommes. Donc c'est pour ça qu'on trouve en moyenne zéro. Et donc ça, c'est aussi ça démontre un peu que les politiques
peuvent avoir des effets.
Ont permis d'égaliser. Mais il y a quand même aussi des mécanismes qui sont très résistants. Donc, pourquoi on discrimine les hommes dans les métiers très féminisés? C'est vraiment lié à cette idée de stéréotype et cette idée qu'il y a des métiers qui ne sont pas convenables pour des hommes. Et ça résiste encore, même au sein donc, de la discrimination sur le genre. Mais c'est vrai que dans l'ouvrage, j'ai essayé de comparer plusieurs, de donner en tout cas, de rassembler les résultats pour plusieurs facteurs, ce qui me semble très instructif de dériver des conclusions de ce qu'on a pu observer sur le genre en particulier. Parce que sur le genre en particulier, on a plusieurs dimensions qui sont importantes, c'est qu'on a pu mesurer, on a pu observer à des échelles pas seulement sociétales, mais à des échelles méso, c'est-à-dire dans les entreprises, dans les organisations. Et on a pu aussi mener des politiques qu'on a pu évaluer. Donc on a là un exemple qui est inspirant pour les autres dimensions. Et en vrai, quand on regarde dans le livre les mécanismes qui expliquent les discriminations, il y a quand même quelque chose d'assez universel, malgré les spécificités de certaines dimensions, il y a quelque chose d'assez universel. Donc c'est très éclairant de regarder en fait la force d'exemple des politiques de genre.
Myrna Safi, comme on arrive bientôt au terme de la première partie de cette émission, je voudrais quand même qu'on s'arrête un instant sur les résultats massifs qu'on trouve dans l'ensemble des pays que vous avez cités, cette dizaine de pays, en gros, qui produisent des enquêtes qui permettent d'être comparées les unes aux autres. C'est premièrement que c'est assez stable, ces discriminations n'évoluent pas dans le temps avec le recul historique qu'on a. D'autre part que de loin les discriminations les plus importantes sont liées à l'origine. Ce sont des discriminations qu'on peut mesurer, vous le disiez tout à l'heure, à partir du prénom par exemple, ou de la couleur de la peau. Ce sont des discriminations de loin les plus fortes. Et troisième notation, de ce point de vue-là, la France arrive en tête du peloton, à tel point qu'on trouve des discriminations en fonction de la couleur de la peau plus fortes en France pour l'entrée sur le marché du travail qu'aux États-Unis d'Amérique, par exemple.
Oui, dans le recrutement.
Pour l'entrée sur le marché du travail.
Il y a beaucoup de choses dans le livre sur le recrutement parce qu'il y a beaucoup d'études sur le recrutement. Mais par exemple, juste pour vous donner la complexité du phénomène est telle que, par exemple, pour le genre, on a des éléments qui montrent qu'il y a beaucoup de discrimination après post-recrutement et qu'on a du mal à mesurer parce que pour des raisons éthiques, pour des raisons de faisabilité, on a du mal à faire des expérimentations, par exemple, pour les licenciements.
Non, mais bien sûr, mais c'est ce que je rappelais, ce sont quand même des faits massifs. Non, et je ne suis pas sûr que beaucoup de concitoyens français aient véritablement pris conscience de cette réalité sociale-là. C'est pour ça que
Recrutement, dans le logement, par exemple, les discriminations à raison du genre sont très fortes. Dans les interactions aussi sociales quotidiennes, elles sont très fortes. Donc les discriminations à raison de l'origine. Et en France, elles sont particulièrement fort dans le recrutement. Et c'est très important parce que les recrutements, c'est quand même la clé de l'entrée sur le marché du travail. Donc, c'est une barrière très forte qui ressort après dans les enquêtes observationnelles. Alors, il faut savoir que ce que nous, on mesure, c'est quand même, encore une fois, des situations fictives où, en fait, on envoie ses CV et on regarde comment les employeurs répondent. Après, dans la vie réelle, ça a des effets sur comment les stratégies, en fait, des individus, ça peut avoir des effets sur leurs décisions d'accumulation de capital humain. Est-ce qu'ils vont se former? Est-ce qu'ils vont investir dans l'éducation? Ça peut avoir des effets sur leur santé mentale, etc. Donc, c'est un phénomène au-delà de l'interaction de discriminatoire elle-même. Ça a des répercussions sur, en fait, de nombreuses caractéristiques des individus, mais aussi sur la société en général. Et en France, c'est vrai que on n'aime pas trop parler de ça, ou pire, c'est qu'on essaye parfois de le nier. Donc je pense que sur ce fait-là, aujourd'hui, c'est très difficile de nier les faits. Il faut savoir que ce dont on a besoin, c'est vraiment de prendre la mesure, en fait, de ce défi et essayer maintenant de s'y atteler. Je pense qu'il y a des initiatives qui émergent. Il faut une volonté plus forte des pouvoirs politiques. Mais c'est vrai qu'en disant ça aujourd'hui, parfois, j'ai un petit pincement au corps parce que j'ai écrit ce livre, c'est un livre qui, quand même, qui est lié à des années de recherche et d'enseignement.
Oui, on imagine vu la densité du livre.
Et donc, le livre est sorti, je l'ai bouclé juste avant, la victoire de Donald Trump aux États-Unis. Et c'est vrai qu'il y a un peu, aujourd'hui, il y a un peu une ambiance, de frustration. C'est-à-dire qu'on a l'impression que ces sujets sont inaudibles alors que les faits sont là. Mais il faut continuer à essayer de peser dans le débat public là-dessus. C'est pour ça aussi que je pense que les sciences sociales peuvent être utiles et qu'elles doivent, en fait, se rapprocher le plus possible de sujets, d'enjeux importants pour apporter aussi leur pierre à l'édifice.
Oui, c'est la situation américaine, elle a évolué, elle est en train d'évoluer. Mais la situation française, on a l'impression qu'elle s'inscrit dans une plus longue durée. En fait, en vous entendant dire que la France arrive en tête et que, en rapprochant ce fait des discours très forts, théoriques autour de l'universalité de la République, du fait qu'on ne saurait discriminer par principe dans la République française, on peut pas s'empêcher de faire le lien, enfin de se demander dans quelle mesure c'est précisément cette matrice républicaine qui considère que les gens qui comptent combien il y a de noirs ou combien il y a de blancs dans un groupe social sont racialistes, parce que c'est parfois ce qu'on leur reproche, qui empêche de véritablement prendre la réalité, la conscience de la réalité des discriminations telles que vous les montrez avec ces enquêtes, en fait.
Oui, c'est une piste d'interprétation qui d'ailleurs utilise dans ses méta-analyses pour dire oui, en fait, pourquoi aux États-Unis, par exemple, finalement, on voit des chiffres qui sont sur le recrutement moins élevé qu'en Europe, en fait, en général, d'ailleurs. Les dernières méta-analyses trouvent qu'il n'y a pas de différence entre les pays européens et les États-Unis en termes de discrimination dans le recrutement. C'est aussi parce qu'aux États-Unis, il y a quand même eu beaucoup de politiques. Alors, aujourd'hui, on voit un petit peu leur démantèlement, mais il y a eu beaucoup de politiques. Il y a eu aussi un chiffrage de manière très, très précise dans les entreprises qui ont en fait des contrats avec donc les programmes d'État d'égalité de chance pour en fait indiquer dans leur recrutement, dans toutes les étapes, dans toutes les catégories en fait de leurs employés, aussi la proportion de minorités. Donc, on est très loin de ça en France. Donc, c'est pas seulement les grands discours. Je sais, on est obsédé par ça en France, le républicanisme, l'universalisme, etc. Ça, on pourra jamais démontrer vraiment que c'est ça l'origine que c'est ça qui est à l'origine en fait des écarts.
On peut pas dire que ce soit des discours qui soient très favorables aux sciences sociales.
Ce qu'on sait, c'est qu'en fait, il y a quelque chose de très tangible, c'est qu'on a du mal à mesurer ça, et même les entreprises qui voudraient bien, en fait, ne peuvent pas le faire. Donc, et tant qu'on mesure pas, en fait, on aura du mal à documenter le phénomène et à mesurer son ampleur et à agir contre ce phénomène. Donc ça, c'est un problème très, très important. Alors, les chercheurs, plusieurs chercheurs en France insistent sur le fait qu'on a besoin d'une agence, par exemple, indépendante de l'État, qui puisse répéter des protocoles standardisés comme ça, parce qu'en fait, les chercheurs, ils vont pas non plus. C'est très coûteux, en fait. Il faut savoir que c'est très coûteux. Et aussi, il y a un problème de validité externe, c'est-à-dire on va se concentrer sur quelques occupations, etc. Il nous faut beaucoup plus de moyens pour faire ça de manière répétée, pour faire ça de manière généralisée, et pour pouvoir comparer dans le temps, et tout en essayant de coupler ça avec des interventions qu'on peut évaluer pour essayer de comprendre comment on peut améliorer les choses. Je voudrais juste insister sur le fait que il n'y a pas de solution miracle. J'essaie de le dire dans le livre, c'est pas comme si c'était facile de lutter contre le phénomène. Parce que d'ailleurs, comme vous l'avez dit, c'est stable, même dans des pays qui ont des politiques d'égalité de chance pendant très longtemps. Donc, c'est un sujet très difficile. C'est voilà, il faut quand même être humble là-dessus. Mais il faut aussi se retrousser les manches et se dire.
Pas une raison pour mettre des bâtons dans les roues de la connaissance. Et donc ça, c'est toujours, et je renvoie parce que vous pouvez l'écouter, une rubrique actualité d'il y a quelques semaines avec François Héran qui était venu s'étonner ici des gens qui se mobilisaient contre le fait d'introduire une nouvelle question dans le recensement à propos du lieu de naissance des parents, qui en dit long sur cet état d'esprit français qui dépasse d'ailleurs les clivages politiques en fait. Et ce qui est assez assez perturbant. Merci Myrna Safi. On continue à discuter avec vous aussi de discrimination avec Amadou Barry qui nous rejoint pour parler de son roman Le journal d'un exilé. C'est après un extrait du nouvel album du rappeur de Brooklyn, Billy Woods. We don't leave anything in the past. It must be nice for those who remember.
Let me tell you, my darlings, these are laughter lines. I had my community sick when they unraveled our time traveling, still picked dark old Milicic. Niggas asked, is this as dark as it get? Put a finger to my lips, shook my head. Hallway was barely lit, air thick with dread. It's a room full of racket execs on the other end, and you dancing on the desk. Wake up in a cold sweat. In a barber chair, Math Hoffa asking if anyone tried to make you wear a dress. Wake up in a cold sweat. Laid up next to your OOOOOX. And never broke up. Duplex West 86. Three beautiful kids to get up and make their own beds. But the way she popped that, I knew I was gonna wake up. I ain't even tripped. Cold sweat. My place is a mess. Landlord trying to empty the building so he can make it flip. I'm the only one left. They mad I'm stopping the grip. I'm glad cause the shoe on the other foot and it fit. Every slave dream of the day, get a hold of the whip. Shit even grin, I pay rent, they mad as shit. They trying to wake up, but it's the same N-word again and again with the same check. They tried threats, they offered me bread, begged me to talk sense. Like how you want this thing to end? And who said that? Who said anything about
hold on, hold on, why would it end?
I love it here, y'all. I'm not trying to go anywhere, man. Y'all my people. Why would it end? Maybe I'm crazy. That's how it ended, man.
The clothes I described were the clothes he was buried in. The piece of paper that he gave me, she brought a letter that he wrote her when he was in the army. Signatures identical. There's only one thing that was different. I said, he had a high voice. She said, oh, no, 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 she said. He had a deep voice like yours. Oh. Anyway, this story happened to a guy like me, and as I say, it's been haunting me.
France Culture, la suite dans les idées. Sylvain Bourmeau.
On parlera d'Europe dans la partie actualité de l'émission, 20 ans après le traité constitutionnel européen et à propos d'un numéro spécial consacré à cet événement 20 ans après par la revue Mouvement. Ce sera avec Clément Petitjean, mais on continue à parler de discrimination dans une situation en particulier parce qu'on a beaucoup insisté sur le fait que les discriminations étaient illégales, ce qui n'empêchait pas qu'elles existaient, massivement même, mais parfois on est moins protégé par le droit de ces mêmes discriminations quand on est dans certaines situations sociales dans une société, et c'est clairement le cas des protagonistes de votre roman Amadou Barry, deux protagonistes sans papier, comme on dit, migrants, comme on dit beaucoup dans les médias, que vous préférez appeler autrement, appeler exilés. D'ailleurs, dans le livre de Myrna Safi, il y a des réflexions sur la manière dont des catégories sociales ou statistiques ou politiques font à leur tour, après, dans la vie réelle, l'objet de discrimination. Et je me suis dit que c'était intéressant de prendre cette situation particulière, même si dans votre roman, on peut pas dire que vous fassiez une série d'observations de ces discriminations. C'est pas l'objet central de votre livre, Amadou Barry.
En effet, c'est pas l'objet central, mais comme vous venez de dire, dans le parcours de ces migrants que j'ai préféré appeler exilés, à juste titre, on voit qu'il y a un problème, parce que c'est une catégorie de personnes qui subissent cette dure réalité. Mais contrairement aux citoyens du pays qui ont la possibilité de porter plainte ou de se mobiliser, eux, ils savent qu'ils sont en dehors de ce circuit. Donc, ils sont, ils sont sans papier, comme vous l'avez souligné tout à l'heure. Donc, l'objectif dans le texte, c'était de relever les difficultés qui traversent ces personnes. Et dans le texte, j'ai même fait en sorte que des personnes ayant la nationalité des citoyens du pays se retrouvent dans le même endroit et que, à travers eux, qu'on constate ces réalités qui relèvent carrément de la discrimination.
Alors, la discrimination, il y en a quand même dans votre roman. J'y faisais allusion. Il y a quelque chose autour du monde littéraire de l'écriture, parce que il faut avoir des papiers d'identité pour être en règle sur le territoire français. Mais en fait, pour publier un roman, il faut d'une certaine façon avoir aussi des papiers, d'autres types de papiers, et avoir aussi une certaine façon d'écrire la langue. Vous vous arrêtez un moment sur ces questions, Madou Barry.
Oui, tout à fait. À ce niveau, j'ai laissé libre cours, j'ai laissé le personnage évoluer, et comme c'est un personnage qui parle d'un milieu qu'il ne connaît pas réellement, et tout ce qu'il a eu comme idée ou connaissance sur le Chizé, il a obtenu en écoutant son ami. Là, je parle du narrateur Dramé, donc c'est plutôt son ami qui a une certaine formation. Mais bon, dans le texte, l'un des protagonistes, Dramé, à l'occurrence, il fait allusion à cette réalité. C'est pas tout à fait vrai, parce que dans le milieu littéraire, quand le texte est bon, encore aujourd'hui, l'identité de l'auteur compte très peu. Ça, c'est quelque chose qu'il faut souligner. Par contre, dans sa conception à lui, c'est un milieu où, si on n'a pas un bagage intellectuel assez conséquent, vaut mieux ne pas s'y frotter. Donc, il se fixe des limites. Parce qu'il n'a pas, disons, suffisamment de connaissances, il ne connaît pas le milieu, mais il essaie en même temps de relever cet aspect qui disons, cet élément qui revient très souvent dans les textes, dans les essais et tout, qu'on appelle couramment le capital culturel, quelque chose qui l'effraie beaucoup. Et c'est à travers ça que j'ai voulu faire en sorte que, disons, cette frontière qui est invisible apparaît à ce niveau.
C'est une des frontières. Ouais. En fait, évidemment, on sait que pour les sans-papiers, les frontières, elles sont multiples dans la ville, et qu'il y a des endroits où on peut aller, d'autres, ça dépend des heures. Il y a un très beau livre de Stéphane Lecourant sur le sujet, paru récemment. Dans votre livre, ces protagonistes viennent d'Afrique, l'un et l'autre, mais sont en Europe. En fait, évidemment, j'imagine qu'ils viennent chargés d'un bagage, d'une expérience des discriminations ailleurs. Dans le livre de Myrna Safi, il y a quelques pages, mais très peu, sur les discriminations dans le sud global, qui prennent pas la même forme. D'abord, qui sont peut-être moins illégales, moins, le droit est peut-être et sans doute moins protecteur dans beaucoup de pays. Donc, quelle expérience ça peut être de quelqu'un qui le parcours de quelqu'un qui a connu des discriminations dans une autre société, qui prennent d'autres formes et qui découvre une autre manière de discriminer au fond.
En fait, j'ai beaucoup apprécié ces passages dans l'ouvrage de Myrna, parce que on constate tout de suite, à travers les articles publiés et tout, qu'il y a un manque de données concernant ces discriminations. Les États refusent carrément d'encourager des recherches autour de la question. Sauf que c'est une réalité qui est profondément ancrée dans différentes sociétés, dans la plupart des sociétés.
Dans toutes
aussi.
Les sociétés, sans doute.
Effectivement. Donc, c'est des... Là, on parle des exilés de façon globale. Pratiquement tous ces exilés, quand on prend le cas de Dramé, par exemple, et dans son pays, la Guinée, il sait que c'est une réalité. Ces discriminations, ça existe. Il y a un sérieux problème. D'abord, c'est des régimes dictatoriaux qui se sont toujours succédés. Et il y a des discriminations par rapport Ici, on parle de la couleur de peau, mais de l'autre côté, surtout en Afrique subsaharienne, on parlera tout de suite de l'origine ethnique. Parfois, c'est lié à la langue, à la région.
Par quoi c'est fabriqué par le colonialisme ?
Effectivement, c'est un héritage colonial qui est encore entretenu par les élites en place parce que ça les arrange lors des campagnes électorales ou, en tout cas, dans la conquête du pouvoir, ils utilisent ces éléments.
On voit ce qui se passe en ce moment en Afrique de l'Ouest avec la catégorie Peul, par exemple.
Effectivement. En Afrique de l'Ouest, actuellement, on assiste à quelque chose qui relève du crime contre l'humanité. Et si on fait pas attention, on risque de se retrouver face à un génocide, que ce soit au Niger, que ce soit au Mali. La stigmatisation et le ciblage ethnique a atteint un niveau. C'est-à-dire on cible des populations à cause de leur origine ethnique, à l'occurrence les Peuls, et on les massacre sans distinction.
Myrna Safi, sur cette situation dans les pays du Sud et sur cette difficulté à produire des données, sur le fait que les administrations, les États n'ont pas envie. Alors à ça s'ajoute le fait que l'administration Trump a arrêté tous les programmes qui permettaient d'avoir par exemple des recensements dans beaucoup de pays. Donc on va encore plus manquer de données qu'avant.
Oui, en fait, un des aspects, je pense, où le livre essaie de dire que, en fait, ce champ-là, il est contextualisé, c'est-à-dire qu'il faut comprendre dans chaque contexte ce qu'une catégorie sociale signifie. Donc, effectivement, par exemple, même si vous prenez la catégorie musulman, on a beaucoup d'enquêtes expérimentales qui montrent des discriminations dans les sociétés, on va dire, égalitaristes démocratiques envers les musulmans, mais on sait aussi que dans des pays moins démocratiques, il y a parfois des discriminations du groupe musulman envers d'autres populations. Donc, il faut toujours contextualiser, essayer de comprendre les... Alors là, j'ai essayé un petit peu dans le livre de faire cet exercice quand j'avais vu des données, parce que sur les discriminations dans le recrutement, il y a quelques enquêtes qui ont été faites dans des pays du tout global, mais c'est vraiment une petite tentative. Il y a vraiment, je pense, de l'espace pour essayer de répéter ces protocoles empiriques sur d'autres pays, mais il faut avoir des moyens. C'est pas seulement une question aussi, je pense qu'il y a bien sûr, des sciences sociales ont besoin de régimes démocratiques, c'est évident, mais il y a aussi la question des moyens pour la recherche, donc vraiment essayer de faire ça pour la recherche. Après, je voudrais juste revenir peut-être sur la question de la migration. Je trouve ça intéressant parce que dans le livre, j'ai fait quand même, peut-être par facilité, mais j'ai fait quand même le choix de me concentrer sur les sociétés démocratiques égalitaristes en disant dans ces sociétés, on a à la fois le côté illégal et illégitime de la discrimination. En fait, la migration, c'est un peu la seule exception, si vous voulez, parce que d'un côté, effectivement, du point de vue juridique, on est à la frontière, puisqu'on a dans certains pays, en fait, des droits différents. Et puis, je sais que vous n'aimez pas le mot migrant, mais cette caractéristique d'avoir, en fait, traversé une frontière nationale fait qu'on a un statut légal différent. Et aussi, du point de vue de la légitimation, c'est très intéressant, c'est-à-dire que des sociétés égalitaristes acceptent, en fait, de traiter les migrants différemment. Aussi, il y a un aspect légitimation des inégalités qui est fort dans ce domaine-là. Donc en fait, le traitement discriminatoire envers les migrants, dans certaines études, on parle de discrimination institutionnelle, c'est-à-dire que on n'est pas vraiment dans les exemples que je donnais d'interaction juste inter-individuelle. C'est quelque chose qui est ancré dans les institutions.
Ce n'est plus un droit de la discrimination, c'est un droit à la discrimination, en quelque sorte. On pourrait presque aller jusque-là, en tous les cas. Évidemment, ils sont beaucoup moins protégés. Est-ce que cette spécificité, ce statut peu glorieux de la France comparé à d'autres pays européens, c'est quelque chose, je disais tout à l'heure que les citoyens français n'avaient pas forcément conscience de ça, peut-être que les gens qui réfléchissent à l'idée de venir en Europe, eux, savent mieux ce fait-là et se disent, vaut peut-être mieux pas aller en France, vaut peut-être mieux aller dans d'autres pays. Qu'en est-il de cette information, entre guillemets, là? Est-ce qu'elle circule?
Alors, absolument pas. Mais elle ne circule pas sous cet angle. Parce que tout simplement, la plupart des personnes qui fuient, qui décident de venir en Europe, ils fuient des pays, en tout cas ils fuient des situations très compliquées, que ce soit pour des raisons économiques ou politiques, ils quittent pour la plupart d'entre eux des pays dictatoriaux. Donc, c'est des gens qui se disent que de l'autre côté, ça ne sera pas pire qu'ici. Ils ont cette idée avant de bouger. Et encore une fois, il faut prendre en compte un élément qui est crucial, à mon avis. C'est que tout ce qui est lié aux discriminations, c'est comme si, en tout cas, quand on discute avec les personnes exilées, c'est comme si ça ne les concernait pas directement. Et ils se mettent en recul par rapport à la question, parce que tout simplement, pour eux, c'est des questions qui concernent surtout les citoyens du pays.
Il faut d'abord avoir des papiers ensuite se poser la question.
Effectivement. Donc, eux, c'est à ce niveau qu'ils se placent. C'est toute la subtilité de la question, à mon avis.
Merci beaucoup, Amadou Barry. C'est un premier roman, un texte littéraire impressionnant. Journal d'un exilé, il a paru aux éditions Julliard au mois de janvier. On trouve la référence bibliographique sur la page de La Suite dans les idées. On trouve aussi celle du livre de Myrna Safi, Discrimination. Vous pouvez écouter l'émission et vous abonner au podcast également sur cette page.
France Culture, La Suite dans les idées. Sylvain Bourmont.
Une revue au programme de cette rubrique actualité ce soir, un numéro de revue, la revue Mouvement, un numéro consacré à l'Europe, aux Europes, c'est au pluriel, 20 ans après le traité constitutionnel européen. Bonjour Clément Petitjean, vous êtes maître de conférence à l'université Paris 1, au département des langues. Vous êtes américaniste au départ, et avec un certain nombre de membres de la rédaction de Mouvement ou d'invités, vous avez co-dirigé ce numéro. Pourquoi avoir décidé, je sais que ce moment a été un moment important, non seulement pour la société française, c'est le point de départ, mais même pour le comité de rédaction de cette revue. Vous n'en faisiez pas partie, vous me disiez tout à l'heure avant l'émission que vous aviez 15 ans à l'époque. Mais c'est dire l'importance historique de ce moment et la nécessité pour un comité d'une revue qui existe depuis assez longtemps de revenir sur ces divisions qui restent un souvenir intéressant, quoi qu'il en soit.
Oui, donc effectivement, Mouvement, c'est une revue qui est créée en 1998, avec dans l'idée de créer des ponts entre le monde universitaire et les mouvements sociaux de manière assez générale, avec comme slogan ou sous-titre des idées et des luttes. Et donc, on publie entre 2 et 4 numéros par an, et donc une partie du travail du comité éditorial, c'est de réfléchir aux numéros des années à venir. Et donc en 2023, si je me souviens bien, on discutait de quelles sont les idées de numéros qu'on a dans les tuyaux. Et la proposition a émergé de se dire qu'est-ce qui va se passer en 2025 si on réfléchit un peu en termes de date anniversaire. Et assez spontanément, les 20 ans des débats sur le traité constitutionnel européen sont apparus, avec cette spécificité qui a eu lieu à Mouvement à l'époque, mais en fait qui avait lieu dans tout un tas d'espaces de gauche au même moment, qu'il y a eu des débats très vifs.
Mais même des espaces sociaux plus larges, parce que vous dites des familles, des organisations, quelles qu'elles soient, en fait.
Oui, je pense qu'on pourrait imaginer faire une espèce de coupe de la société française en 2005 et voir à peu près partout dans les médias, dans les salles des fêtes, dans les amphithéâtres universitaires, dans les cantines, à table le soir, des gens qui ont discuté politique, se sont emparés d'un sujet extrêmement compliqué, extrêmement juridique.
Et qui ne recoupait pas le clivage droite-gauche.
Ne recoupait pas le clivage droite-gauche. Et à Mouvement, par exemple, de ce que j'en sais, il y a eu des débats très vifs. Il n'y a pas eu de prise de position collective de la revue sur ce sujet-là. Parce que c'était impossible. Et en fait, il n'y a pas eu, dans l'histoire de Mouvement, de numéro consacré à l'Europe. Aux Europes. Je reviendrai peut-être sur le choix du pluriel. Et donc, l'idée a été de dire, utilisons cet anniversaire des 20 ans du TCE, pas tant pour réouvrir le débat, pour décider de qui avait tort, qui avait raison, mais plutôt pour faire un bilan et se dire, 20 ans plus tard, où est-ce qu'on en est, quelles sont les grandes évolutions, qui ont eu lieu au cours des 20 dernières années, et aussi comment remettre sur le métier la question qui était cruciale à l'époque de que faire, qu'est-ce qu'on fait de l'Europe, qu'est-ce qu'on fait en Europe quand on porte des projets politiques d'émancipation individuelle et collective.
Alors vous vouliez nous expliquer pourquoi vous avez mis un S à Europe.
Ouais, donc l'idée c'était de pas considérer que l'Union européenne était synonyme de Europe au singulier, et qu'en fait il y avait différentes configurations nationales, que l'Union européenne ne, enfin le continent européen ne se résume pas à l'Union européenne, et du coup pour aussi un petit peu introduire du jeu dans cette idée de dire que voilà, quand on dit Europe, c'est pas exactement juste cette entité politique un peu bizarre
et pour faire de l'UE une entité à part entière, en quelque sorte, d'une certaine façon, l'UE est l'Europe, enfin est une des Europes. C'est pour ça que vous avez mis le pluriel, parce qu'il y a une autre Europe qui serait plus politique et plus large que simplement l'administration de l'Union européenne en particulier.
Et puis il y a aussi l'Europe, l'idée d'Europe telle qu'elle peut être portée par une partie de la gauche, mais il y a aussi l'idée d'Europe qui peut être portée par l'extrême droite. Et l'un des fils, alors c'est pas un fil conducteur du numéro, mais c'est quelque chose qui est un peu en souterrain et qu'on retrouve beaucoup dans un papier en particulier, papier d'Estelle Delaine sur la présence du Rassemblement national au Parlement européen. C'est cette une espèce d'internationale d'extrême droite, une internationale fascisante qui, dans les années 2010. S'est rencontré, gagné des sièges au Parlement européen, a gagné des sièges dans les pays nationaux, et puis bénéficie de réseaux internationaux bien au-delà de l'Union européenne.
Et est allé y chercher des ressources, y compris matérielles, la justice l'a montré. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que vous insistez sur ce qui s'est passé après ce vote, parce qu'on sait que ce vote s'est traduit par un rejet du traité à 54 et quelques pourcents. Donc la France coupée en deux, mais quand même un vote assez net contre. Et que malgré tout, le vote n'a pas été respecté. Vous vous inscrivez ça dans une trajectoire qui va être aussi celle de la Grèce un peu plus tard à l'égard de l'Union européenne, en essayant de montrer comment ça a pu abîmer la relation aux politiques de manière plus générale. Et en même temps, je me suis fait la réflexion en lisant l'éditorial en particulier que, d'une certaine façon, j'avais le souvenir que c'était inscrit avant même le résultat. Il suffisait d'observer que quelqu'un comme Laurent Fabius avait pris position contre l'Union européenne pour bien comprendre la dimension, j'allais dire, molettiste de sa position. Ça renvoyait à des vieilles choses de la SFIO, au fond, des manières d'être très radical quand on est dans l'opposition et de faire tout autre chose une fois qu'on arrive au pouvoir, Clément Petitjean.
Oui, ben je sais pas quoi rajouter de plus à ce que vous venez de dire, si ce n'est que c'est effectivement le constat qui était partagé par les membres de la petite équipe qui a monté le numéro.
C'est un numéro qui permet donc d'inscrire aussi ce débat, ce moment historique important dans une temporalité plus longue et qui l'a suivi, parce que ce débat, il a eu les suites. Je citais la Grèce. La Grèce est très présente dans ce dossier, en fait.
Alors, la Grèce est très présente, d'une part, par un effet politique, puisque effectivement, il y a 2015... donc ce référendum grec sur le plan porté par la BCE, la Commission européenne et le FMI, qui est rejeté très massivement, puisque c'était à peu près un peu plus de 61% de l'électorat, et redite de 2005, la décision du peuple grec n'est pas respectée, et le plan de la Troïka s'applique quand même. Donc il y a la place particulière qu'a occupé la Grèce dans les années 2010, le moment de forte mobilisation en France et dans d'autres pays de soutien au gouvernement d'Alexis Tsipras avant que celui-ci capitule et trahisse. Et puis il y a aussi un effet d'aller chercher des sollicitations, des papiers là où on en trouve, là où on sait qu'il y a des chercheurs et des chercheuses qui ont des enquêtes sous le coude. Et donc là, c'est par exemple un papier de la chercheuse grecque Ara Kouki qui travaille sur les mouvements de solidarité à Athènes. et qui réinscrit ça dans une lutte contre les formes d'austérité imposées à la fin des années, à la fin des années 2000.
Et j'ajouterais juste une table ronde 20 ans après le rejet du TCE, où va l'Union européenne, qui est emblématique aussi de ce qu'est le mouvement, parce qu'elle réunit des responsables politiques, Marie Toussaint et Manon Aubry, et un des grands chercheurs spécialistes de l'Europe, politiste Antoine Vaucher. C'est vraiment typique de ce que propose en général cette revue. Passionnant dossier de la revue Mouvement. On trouve la référence bibliographique aussi sur la page de La Suite dans les idées. C'était La Suite dans les idées, Sylvain Bourmeau avec Séam Boutata, à la technique ce soir Marie-Claire Oumabadi, à la réalisation Jean-Christophe Francis.